La radio adventiste Béthanie de Bétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit.
Chers frères et sœurs, amis visiteurs et chers amis qui nous suivent en ligne, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous, chers frères et sœurs. C'est un plaisir pour nous que de pouvoir ensemble adorer physiquement dans la présence de Dieu, surtout après plusieurs mois. Et c'est aussi une joie d'être ensemble. Je pense que c'est lorsqu'on a passé beaucoup de temps loin de, les uns des autres et qu'on a la possibilité, comme on l'est maintenant, de se retrouver ensemble, qu'on comprend qu'une assemblée, c'est important. Ça nous permet de renouveler notre foi et notre communion. Donc, je suis content de voir beaucoup de visages amis, beaucoup de familles ensemble. Et sachez que là où deux ou trois s'assemblent, dans le nom du Seigneur, il est au milieu de nous. Et nous allons avoir la possibilité de méditer sur la parole du Seigneur et aussi d'aller à l'essentiel de ce que nous pouvons retenir pendant les quelques minutes que nous avons à méditer dessus. Mais jusqu'avant, je vous invite à fermer les yeux. Nous allons implorer l'assistance divine pour nous. Seigneur Jésus, nous te disons merci de ce que tu es notre Père. Tu nous rassembles dans ta famille et tu prends toujours le temps de nous nourrir spirituellement. Donne-nous de recevoir ton esprit et de pouvoir en tirer une leçon de vie. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. C'est l'été, il fait beau et c'est généralement le moment que les gens utilisent le plus pour voyager. Et peut-être cette année, il n'y a pas autant de voyages que d'habitude à cause du corona. Mais n'empêche que les gens essaient de réorienter leurs vacances. Ils prennent le temps de visiter des villes qui sont plus proches. Et c'est quand même beau aussi pour ceux qui ne veulent pas aller loin. Ils prennent le temps d'aller dans des parcs. Ils profitent du soleil. Et chaque fois que les gens doivent voyager, quand ils veulent sortir, des fois ils vont faire des mal. Et ils vont essayer de garder ce qui est le plus important. On ne peut pas tout apporter avec soi, n'est-ce pas? Il faut faire des choix. Et quand les gens doivent sortir, ils doivent trier leur mal-être, mettre des choses de côté et n'en tenir que l'essentiel. Surtout en ces moments, parce que si on décide de sortir, c'est vraiment le moment de voyager léger. Et justement, ça nous amène à comprendre l'importance de ce qui est vraiment important. Quand on doit faire ses mal, quand on doit choisir l'essentiel, on se rend compte que ce n'est pas tout ce qu'on met dans sa malle qui est important. Il y aura des éléments qui sont beaucoup plus essentiels que d'autres. Et c'est une idée qui nous permettra de comprendre un peu le message que Dieu a pour nous aujourd'hui. Et je veux vous rappeler que le titre du sermon, c'est « Ce qu'il y a de plus important ». Et pour introduire cette idée que ce n'est pas tout ce qu'on a qui est important, mais que quand on doit choisir, il ne faut garder que l'essentiel. Il y a une histoire qui peut parler aussi bien aux enfants qu'à nous qui sommes un peu plus âgés, qui nous aidera à comprendre que parfois, il faut choisir ses priorités. Il y avait un professeur qui était dans une classe et il voulait enseigner une leçon de vie à ses amis, à ses étudiants. Puis, il vient dans la classe avec un récipient, une bouteille. Puis, il vient avec plusieurs cailloux de différentes dimensions et aussi du sable. Et il invite les étudiants à les mettre dans la bouteille autant qu'ils pouvaient, autant de cailloux et de sable qu'ils pouvaient. Plusieurs étudiants se sont essayés. Certains ont pu mettre quelques gros cailloux et du sable, mais aucun n'a pu tout mettre à l'intérieur de la bouteille parce qu'avec plusieurs cailloux et du sable, ce n'est pas évident. Puis après que plusieurs d'entre eux se sont essayés vainement, le professeur leur a dit qu'il va leur transmettre la technique. Et la manière dont il s'y est pris, il a pris les gros cailloux. Il les a placés d'abord. Et puisqu'il a placé les gros cailloux, il restait de l'espace. Et à partir des interstices, il a mis d'autres petits cailloux. Puis après, il a mis le sable. Et comme il avait d'abord mis les gros cailloux, puis les cailloux de moindre dimension, le sable a pu aisément trouver des petits espaces interstitiels pour pouvoir y remplir la bouteille. Et donc, avec cette technique-là, il avait pu avoir tous ses cailloux à l'intérieur de sa bouteille, y compris le sable. Et son message pour ses étudiants était ainsi. votre vie, c'est pas mal comme une bouteille et vous aurez pas mal de priorités dans la vie, beaucoup de projets, mais si vous voulez être certain de les avoir tous en intérieur, assurez-vous de mettre d'abord les gros cailloux, les grosses pierres, les plus grandes priorités et ensuite vous trouverez un peu d'espace pour pouvoir y mettre les autres. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Mais on peut s'en baser pour pouvoir approcher le message d'aujourd'hui et voir qu'en tant que chrétien, en tant que pèlerin qui sommes sur la terre, qui sommes appelés à voyager léger et qui avons pas mal de priorités, si nous voulons vraiment être certains de tout, d'avoir ce qu'il faut pour ce voyage-là, il est important que nous gardions l'essentiel dans nos mains. Et les mâles importantes, les gros cailloux, nous les trouvons aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Et s'il y a quelque chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est bien ce que je vais vous dire. Si vous ne devez garder dans votre cheminement chrétien que l'essentiel, assurez-vous de croire, assurez-vous d'espérer, assurez-vous d'aimer, mais si vous ne devez vraiment garder que l'élément, assurez-vous surtout d'aimer. Dans votre mal, ayez la foi, ayez l'espérance, ayez l'amour, mais si vous ne devez vraiment vous débarrasser de tout et nous n'avons qu'une seule chose, assurez-vous de vous aimer les uns les autres. Nous allons voir un peu plus en détail en quoi consistent les gros cailloux dont je viens de vous présenter, ces grands éléments que nous devons garder en tant que chrétiens dans nos mal, et voyons un peu ce que en dit la Bible pour que nous puissions vraiment comprendre leurs importances. Je veux d'abord vous présenter le premier caillou, la foi. Et pour voir un peu pourquoi la foi, c'est un gros caillou qu'il faut mettre en premier, regardons ce que nous en dit Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons survoler ce chapitre-là et nous allons voir pourquoi la foi, ça réunit beaucoup de personnes de toutes les générations dans la Bible et pourquoi on doit quand même, nous qui vivions aujourd'hui, l'avoir dans nos mains. Déjà dans Hébreux chapitre 11, nous trouvons une définition que je dirais classique de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De cette définition-là, nous pouvons retenir que la foi, c'est surtout une sorte d'attitude de confiance que nous devons avoir en Dieu. C'est aussi l'habilité de prendre des actions, même lorsque nous n'avons pas toujours une vision complète. Je dirais que la foi est surtout confiance et action. Et si nous regardons tout le chapitre, ce palmarès, ce tableau d'honneur de la foi, nous allons voir en fait que tous les personnages dont on parle dans ce chapitre-là avaient ceci en commun, cette confiance, cette habilité de prendre des actions pour Dieu, même s'ils ne voyaient pas tout le temps. Et laissez-moi soulever à votre attention quelques contrastes qu'il y a dans ce chapitre. Je pense que le rédacteur a construit ce chapitre sur la base d'une série de contrastes pour nous montrer que la foi, ce n'est pas nécessairement un élément précis, mais c'est vraiment une attitude, une confiance qui relie tout le monde. Si vous commencez par voir au verset 4, on nous parle d'Abel qui avait la foi. Et on nous présente la foi d'Abel comme quelqu'un, on nous présente Abel, quelqu'un qui est mort parce qu'il avait la foi en Dieu. Mais juste après Abel, c'est qui est-ce qu'on nous présente? Enoch. Et qu'est-ce qui distingue Enoch? C'était que par sa foi en Dieu, il avait vécu éternellement. Donc, si quelqu'un avait tendance à penser que la foi, c'est de donner sa vie pour Dieu ou la foi, c'est de vivre éternellement, on voit que la foi, ce n'est pas nécessairement de mourir ou de vivre, mais c'est vraiment de faire la volonté de Dieu pour nous. C'est de vivre la vie que Dieu a pour nous. Puis, en descendant, on voit qu'on nous parle de Noé. Noé, c'est surtout quelqu'un qui est connu pour sa sédentarité. Il a passé 120 ans en une seule place à prêcher l'évangile, puis Dieu l'a permis de se trouver dans une arche pendant plusieurs jours. Mais si on aurait tendance à penser que la foi, c'est de rester en une seule place, juste après, on nous présente Abraham. Et Abraham, c'est vraiment le nomade par excellence dans la Bible. Le verset 8 nous montre que Abraham, lui, il obéit et parti où Dieu voulait qu'il se trouvait. Donc, si quelqu'un avait tendance à penser que à avoir la foi, c'est se trouver dans une place ou bien c'est aller de place en place, bien, en voyant ce contraste-là, on comprend que la foi, ce n'est pas nécessairement d'être sédentaire ou d'être nomade, mais c'est de se trouver là où Dieu veut que nous nous trouvons. Puis, en descendant, nous voyons qu'on nous parle de Sarah au verset 11. Et on nous met surtout en valeur le fait que Sarah, dans son vieil âge, Sarah a reçu par la foi un enfant du Seigneur. On trouve que c'est bien, parce qu'on connaît pas mal d'histoires de personnes qui attendaient des enfants et qui ont prié et qui l'ont reçu par foi. C'est super bien. Mais quand on descend un peu plus bas, on nous présente Abraham une fois de plus. Et qu'est-ce qu'on nous présente d'Abraham? Au verset 17, on voit que Abraham, dans son vieil âge, il offrit l'enfant unique qu'il avait, Isaac, à Dieu. Encore un contraste. Donc la foi, ce n'est pas nécessairement de recevoir miraculeusement un enfant ou de donner cet enfant-là à Dieu. La foi, c'est vraiment de consacrer tout ce qu'on a reçu de Dieu à lui. Puis en descendant dans le chapitre, on voit qu'on nous parle de Joseph, de Moïse en fait. Mais Joseph vient avant Moïse dans le chapitre, au verset 21, on nous dit que c'est pas, verset 22, on nous dit que c'est pas la foi que Joseph, moi, fit mention de la sortie des fils d'Israël. Joseph, c'est quelqu'un qui a une histoire ascendante. On voit qu'il était d'abord avec ses frères, puis il a été jeté en prison, mais Dieu l'a pris de la prison. Il a été jeté dans un puits d'abord, puis de ce puits-là, il a été mené en Égypte. On l'a jeté en prison, puis de la prison, il a été rendu au palais. Il a connu une trajectoire ascendante. Et on vante souvent la foi de Joseph. Mais juste avant, après Joseph, on voit qu'on nous parle de Moïse. Et Moïse a eu exactement, je dirais, une trajectoire descendante. Lui, il a été d'abord au palais. Il était d'abord entouré, choyé dans le pouvoir. Mais par la foi en Dieu, il a tout mis de côté. Et il a vécu pendant des années au désert. Certes, il n'était pas dans le confort du palais, mais il avait la foi en Dieu. Donc, en regardant ces deux-là, on peut comprendre que la foi, ce n'est pas nécessairement d'avoir une trajectoire ascendante ou d'avoir beaucoup de richesses ou inversement, d'être pauvre, de ne plus rien avoir. La foi, c'est d'accepter la condition que Dieu veut que nous ayons. Et si nous continuons ce chapitre, nous voyons en fait qu'on va nous parler de personnes qui se sont données, qui ont été touchées par le tranchant de l'épée. Des gens qui ont été des martyrs, puis d'autres que Dieu a épargnés de l'épée. Des gens qui ont été des personnes où Dieu a complètement intervenu pour les délivrer, comme les trois jeunes Hébreux. Tout ça nous aide à comprendre que la foi, c'est une confiance qui va au-delà des situations. Il y a plusieurs situations qui peuvent faire intervenir la foi, mais l'important, c'est d'avoir cette confiance et cette attitude-là. Une application pratique que nous pouvons trouver pour nous aujourd'hui, c'est que si nous voulons renforcer notre foi, c'est important de prier Dieu, de faire des expériences avec Dieu comme la majeure partie de ces personnages-là en fait, et également de nous nourrir de la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 13, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi la foi, c'est un gros caillou qu'il faut mettre dans notre mal. C'est cette attitude, c'est cette confiance qui fait que peu importe les situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous pouvons aller de l'avant et continuer le cheminement. Mais la foi n'est pas tout. Dans les temps de la fin, selon Luc chapitre 18, verset 8, il est dit que quand Jésus viendra ou quand Jésus sera prêt à venir, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? C'est pour dire qu'on peut bien avoir la foi, mais il y a d'autres choses qui sont tout aussi importantes pour complémenter la foi. Et ce second gros caillou dans notre texte, c'est l'espérance. Nous allons voir pourquoi, pour complémenter la foi, c'est important d'avoir cet autre gros caillou dans notre récipient. Si nous regardons en fait dans 1 Pierre chapitre 1er verset 10 à 13, que je vous invite à chercher, nous allons voir que Pierre fait référence à des prophètes. 1 Pierre chapitre 1er verset 10 à 13, je vous invite à le chercher un petit peu rapidement. Laissez votre Bible ouverte, nous allons le voir un petit peu plus en détail. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10 à 13. S'il y a quelqu'un qui pourrait lire ce verset, on pourrait bien en apprendre un peu plus en détail. Vas-y, Jean-Claude.
Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui, d'avance, attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Si nous lisons ce verset, nous voyons que Pierre fait référence aux prophètes qui avaient reçu de Dieu la vision des choses à venir. Et cette vision-là leur permettait non seulement d'avoir de l'espérance, mais de transmettre aussi l'espérance aux gens qui venaient après. Si vous cherchez espérance sur Google, c'est fort probable que vous trouviez que l'espérance est une petite ville en Australie du Sud. Mais si vous prenez le temps de regarder dans les dictionnaires, vous allez voir que l'espérance a beaucoup à voir avec une attitude d'attente de ce qui va venir. En fait, l'espérance a beaucoup à voir avec une vision, avec une destination. Les prophètes, comme on le voit, ils avaient beaucoup d'espérance et ils pouvaient témoigner de l'espérance aux gens parce qu'ils avaient une vision de ce qui allait venir. Ils pouvaient voir la destination vers laquelle se destinait le peuple de Dieu et à partir de cette vision, ils pouvaient partager de l'espérance avec les gens. Pour comprendre cette distinction, cette nuance qu'il y a dans l'espérance par rapport à la foi, si la foi est beaucoup plus confiance et beaucoup plus action, l'espérance est beaucoup plus une vision de ce qui s'en vient, une idée sur la destination. Il y a deux exemples dans la Bible que nous pouvons prendre pour vous aider à mieux saisir pourquoi l'espérance est importante. Regardons d'abord Joseph, dont on vient de parler. Joseph, au soir de sa vie, même s'il était prêt de mourir, il convoqua ses frères et les enfants d'Israël et il leur dit qu'il va mourir, mais qu'ils doivent porter ses ossements dans la terre où Dieu les amènera, parce qu'il sait que Dieu les emmènera en dehors de ce pays. Ça a pris plus de 400 ans avant que ceci se réalise. Mais cette vision, cette espérance que Joseph avait, a fini par se réaliser. Ensuite, on en vient à Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui a fait 40 ans à mener un peuple vers une Canaan que lui-même ne connaissait pas. Dieu lui a juste dit qu'il y avait Canaan, qu'il fallait prendre ce peuple d'Égypte et l'amener en Canaan. Et pendant 40 ans, il a déambulé dans le désert. Lui-même n'a jamais été dans cette destination. Mais il savait que la vision que Dieu lui donnait sur cette place a été vraie. Et quand le peuple perdait courage, il leur rappelait que c'était une place réelle. Au soir de sa vie, Moïse n'a pas, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas entré en Canaan. Mais Dieu l'a fait voir ce Canaan-là pendant 40 ans où il utilisait cette image pour l'amener, pour l'aider à amener le peuple. Même si lui, il n'y est pas entré, mais il l'a fait voir à quel point cette vision-là était vraie. Et les générations qui sont venues après sont finalement entrées en Canaan. Une application pratique que nous avons pour nous aujourd'hui, c'est que parfois, nous n'avons pas tout le temps une vision claire de ce qui s'en vient. Mais le fait que nous sommes le peuple de l'espérance, le fait que nous avons la parole de Dieu qui contient des promesses, ça nous permet de savoir ce qui s'en vient et alors d'avoir cette espérance. Si vous voulez avoir de l'espérance, si vous voulez fortifier votre espérance, je vous invite vraiment à passer du temps à méditer sur les promesses de Dieu. La Bible recèle de promesses. Quand nous prenons le temps de lire ces promesses, de méditer avec prière dessus, ça nous permet de voir ce qui s'en vient. Ça nous permet de voir la destination. Il y a beaucoup de promesses et l'une des promesses favorites qu'il y a dans la Bible, que j'aime, c'est dans Jérémie chapitre 29, verset 31 qui dit, quand je connais les promesses, quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, quand par moment vous êtes troublé, vous êtes confus, vous ne savez pas ce qui s'en vient, lorsque votre foi s'en vacille, prenez le temps de lire les promesses de Dieu. Ceci va renforcer votre vision et ça, ceci va vous permettre de continuer à avancer vers cette destination. Donc jusque-là, nous voyons pourquoi la foi, c'est une grosse pierre qu'il faut avoir. Nous avons vu pourquoi l'espérance aussi, c'est important. Parce que l'espérance nous mène vers la destination. Mais alors, il est important d'avoir un dernier gros caillou qui peut être le dernier, mais non pas des moindres. Et pourquoi? C'est parce qu'on peut bien avoir la foi pour soi. On peut bien avoir l'espérance pour soi. Mais si on n'arrive pas à le partager avec d'autres, si on n'arrive pas à toucher autrui, ce sera très localisé. Ce sera très individuel. Quelqu'un qui à la fois peut avoir la confiance pour avancer. L'espérance nous fait regarder dans la bonne direction. Mais si nous n'avons pas l'amour, c'est comme un chemin que nous nous faisons tout seul, sans entraîner autrui. Et c'est pourquoi il est important d'avoir ce dernier et ce gros caillou qui est l'amour. Pour que vous compreniez pourquoi l'amour, c'est non seulement une grosse pierre, mais c'est aussi une pierre qui est reliée à tous les autres. Je vous invite à regarder dans Colossiens chapitre 3, verset 14. Il y a pas mal de versets dans la Bible qui présentent l'amour. C'est un sujet, je pense que tout le plan de la rédemption, toute la Bible, c'est une histoire d'amour. Mais pourquoi l'amour, c'est tellement important? Dans Colossiens 3, verset 14, en une phrase, je pense que Paul résume pourquoi l'amour, c'est important. Ça dit quoi?
Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection.
Merci, Cynthia. L'amour, c'est le lien de la perfection. Quand nous avons l'amour avec nous, nous sommes vraiment de Dieu. Si vous prenez le temps de lire 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 11, ou le chapitre 5, vous allez voir que Dieu est amour et ceux qui sont de Dieu sont en mesure de refléter son amour. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir que même lorsqu'on a la foi, si cette foi-là n'est pas ancrée sur l'amour, ceci ne servira de rien. Et même si nous avons la vision de ce qui s'en vient, lorsque l'apôtre Paul parle de prophétie, la vision de ce qui s'en vient, si nous n'avons pas cet amour, cette vision-là n'est pas bien ancrée. Et même si nous faisons beaucoup d'œuvres, si ces œuvres-là ne sont pas motivées par l'amour, ceci ne servira de rien. Voilà pourquoi l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens qui vivons dans les derniers temps, même si c'est important d'avoir la foi et que c'est important de nourrir notre espérance, s'il y a quelque chose qui doit distinctivement nous caractériser, c'est notre amour pour Dieu, notre amour les uns pour les autres. Il y a plusieurs manières d'aimer. Et je ne pense pas que quelques minutes suffiraient pour pouvoir explorer ce thème. Permettez-moi de vous suggérer quelques éléments pratiques que vous pouvez mettre dans votre vie qui peuvent vous aider à grandir et à croître dans l'amour. Pour croître dans l'amour, c'est important d'être connecté à Dieu. Et c'est important d'avoir son Esprit Saint. Mais pour croître dans l'amour aussi, c'est important d'utiliser de manière désintéressée les talents que Dieu nous a donnés. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre qui vient avant en 12, Paul parlait des dons spirituels, des différents dons qui font en sorte que l'Église soit une. Mais quand il voulait parler du don, de la voix par excellence, il a parlé de l'amour. Et donc, quand vous utilisez de manière désintéressée les dons que Dieu vous donne, ça vous aide à vous bâtir mutuellement et ça vous aide à croître dans l'amour. Quand vous passez du temps à méditer sur Jésus, sur son plan, sur cet amour qu'il a donné, dans Jean 3, verset 16, où on voit qu'il s'est sacrifié pour autrui, ceci aussi nous aidera à grandir dans l'amour. Et un exemple très concret que nous avons en tant que communauté pour témoigner notre amour, c'est le projet du centre d'influence ou le projet de bénévolat que nous faisons, que Tristan et toute l'équipe s'évertuent à maintenir chaque semaine. Le bénévolat, c'est important et c'est un exemple d'amour parce que on utilise ce que nous recevons de Dieu et ceci de manière désintéressée. Il y a pas mal d'autres applications. Dans Romains 12, vous allez voir beaucoup d'autres applications, l'hospitalité, le fait de céder. Mais peu importe la forme ou l'aspect qui vous intéresse le plus, c'est important de croître dans l'amour. Et pour terminer, pour vous montrer pourquoi c'est tellement important d'avoir cette pierre. Cette pierre qui, dans les temps de la fin, sera le plus grand remède à tout ce qu'il y a. Je veux vous rappeler l'histoire d'un diacre qui évoluait dans une église. Il n'était pas aussi éloquent que beaucoup d'autres prédicateurs le sont. Il n'avait pas beaucoup de talent spectaculaire. Mais il s'est dit une chose. Je peux ne pas être bon en prédication. Je peux avoir des faiblesses. Mais je peux faire une chose. Je peux ajouter une assiette à ma table et inviter quelqu'un que je ne connais pas à y participer. Et ce diacre-là a fait ceci régulièrement, religieusement pendant des années. Chaque sabbat, il ajoutait une assiette à sa table et quand il allait à son église, il voyait quelqu'un qu'il ne connaissait pas, il l'invitait à prendre un dîner avec lui. L'histoire termine pour dire que des années plus tard dans cette petite ville, quand ce diacre est mort, on a dû louer tout un train pour inviter toutes les personnes qui voulaient venir à ses funérailles. Et que durant des années, il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, justement parce que ce diacre-là avait ajouté une assiette de plus à sa table. Alors que Dieu nous place à Québec, dans cette ville où il y a tellement de personnes qui ont besoin de connaître Dieu, utilisons nos dons, aimons-les, aimons-les des différentes manières que nous pouvons, et alors nous serons en mesure de refléter l'amour de Jésus pour les perdus. C'est ma prière pour vous et pour moi. Que le Seigneur nous aide à garder la foi, l'espérance.